Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, on va commencer par la Genèse. Et puis on va pas s'arrêter à toutes les pages, hein, je tiens à vous le dire quand même. On va prendre dans Genèse chapitre 11, hein, s'il vous plaît, puis on va lire le texte. Mais avant, quand vous aurez trouvé cette page, j'aimerais quand même dire quelques mots en préambule, avant de passer au texte lui-même. Voilà, alors, livre de la Genèse chapitre 11 et verset 1er. Mais permettez-moi de faire une petite introduction de ce qui s'est passé avant. Dieu a créé le monde, c'est-à-dire l'univers minéral, l'univers végétal, l'animal, et puis ensuite il a créé l'humanité. Ça, on est tous d'accord, les premiers chapitres nous parlent de cette création, hein, sur ce monde, sur cette planète. Ensuite, il a créé le couronnement de son génie créateur, on pourrait dire, de ce qu'il avait véritablement à cœur de faire, il a créé l'homme. Alors l'homme, on va le résumer dans l'humanité. L'homme, Adam, naturellement, l'humanité. On va dire comme ça. Et puis ensuite, il a créé, c'est chronologique, hein, vous verrez, et ensuite, il a créé un lieu de vie pour l'homme, avant le reste, le jardin. Alors naturellement, avec toutes les vertus qui en découlent, les bénéfices, c'est-à-dire un lieu de bien-être. On l'a appelé le paradis. On l'a appelé le jardin d'Éden. Et vous allez le retrouver tout le long de notre méditation sous l'image d'une ville ou d'une maison. On verra ça d'ici quelques instants. Ensuite, il a créé la femme. C'est bien, elle n'a pas été créée avant le jardin. La jardinière n'était pas encore arrivée. Oui, si vous regardez, vous verrez. Il a créé la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Et puis, naturellement, de cela, est arrivée la descendance de l'homme, l'humanité. Et il y a eu au départ deux fils qui sont signalés, Caïn et Abel. Ce sont des hommes, à l'image de leurs parents, en quelque sorte. Et là, il y a la cassure. Il y a la rupture, il y a la séparation. Et dans notre méditation cet après-midi, j'aimerais vous parler de deux mondes qui se sont finalement découverts à travers ce que nous allons voir, hein, ce que nous allons découvrir maintenant. Les deux mondes. Deux orientations. Au départ, il n'y en avait qu'une. Une planète, la Terre, créée par Dieu. Un homme. Ensuite, un lieu de vie. Le premier couple. Et la première famille. Et puis, deux orientations vont se dessiner à partir finalement du crime qui s'est produit entre les deux frères, Caïn et Abel. Et deux orientations qui nous interpellent encore aujourd'hui, puisque nous sommes de la race de la terre, nous sommes des fils d'Adam, deux orientations qui vont donner finalement deux destinations, les perdus et les sauvés, on peut dire ça comme ça. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, donc deux mondes. Et on va faire un petit cheminement à travers tout ça. Il y a d'un côté le monde de Dieu, et dans ce monde-là, il y a les hommes, donc la créature. Et puis par-delà la création de Dieu, l'humanité, il y a finalement des hommes qui le prient, des hommes qui l'adorent et des hommes qui le servent. Ça, c'est déjà une orientation, un appel, une orientation, une destination. Et puis, d'un autre côté, il y a un autre monde. Celui-ci, on n'en parle pas. On peut lui donner des noms qui sont effrayants et qui révèlent une réalité invisible. C'est une réalité invisible, mais diabolique. Et dans ce monde-là, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui adorent, qui prient et qui servent le diable, figurez-vous. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a la vérité, l'erreur, il y a la vie, il y a la mort, il y a le ciel, il y a l'enfer. Enfin, je m'arrête là parce qu'on va faire, on est, C'est le monde, c'est l'histoire, hein, quoi qu'il en soit. Deux mondes, c'est important. Et puis voyez-vous que lorsque nous constatons ces choses, que nous nous imprégnons de cette pensée, parce que on n'a pas besoin d'être polytechnicien pour savoir que le mal existe, que le bien existe, que finalement il y a beaucoup de choses à vérité, ça existe. L'erreur, ça existe. Enfin, voilà, je reviens pas. On va lire le premier texte sur lequel j'aimerais vous entretenir. Ce texte nous parle d'une ville et d'une tour, où il y a dans cette ville des maisons. Alors je lis. Toute la terre avait une seule langue et un même mot, l'unité. Comme ils étaient partis, les hommes, de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar où ils habitèrent. Ils se sont dit là, on va être bien. Ils avaient quitté le pays de l'Éden, mais ce n'était pas l'Éden. Hein. Peut-être croyaient-ils que c'était l'Éden, le paradis terrestre, mais ce n'était pas l'Éden. Alors ils se dirent l'un à l'autre, puisqu'ils parlaient la même langue, aucune difficulté, pas de traduction, très facile. Ils se sont dit, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. La peur qu'ils avaient, c'est d'être dispersés, naturellement. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, l'humanité. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Le bien, mais le mal. Eh oui, le mal. Alors Dieu dit, descendons. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, ce qu'ils avaient craint, c'est ce qui arrive, et ils cessèrent de bâtir la ville, ça s'est arrêté. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface ou sur la face de toute la terre. Babel, la ville, la tour, un ensemble de maisons, et c'est le choix de la confusion. Plusieurs fois, c'est Dieu qui envoie ça comme un jugement. Confondons leur langage afin qu'ils ne parlent plus la même langue, qu'ils se confondent finalement, la confusion. Et avec comme raison ou comme cause de ce jugement de Dieu, de cette dispersion, de cette séparation, qui nous rappelle la séparation entre Adam et puis son créateur. Chapitre 3 du livre de la Genèse, il y a eu une séparation, il y a eu une cassure à ce moment-là, et on en connaît les raisons. Genèse chapitre 3, et nous voyons que ça se perpétue. Ça sera toujours une cassure, ça sera toujours une rupture, et ça le sera jusqu'à la fin des temps. C'est un mal qui finalement, se répand dans le monde, s'est répandu dans le monde, se répand encore quand on voit toutes les divisions, les guerres, etc., etc. C'est ce qui se fait. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner rapidement parce que je peux pas. Il va y avoir quatre textes qui vont se suivre. Mais ils ont construit avec de l'artificiel. Dieu avait construit avec vraiment du naturel, le naturel de Dieu. Et le naturel de Dieu, c'est tout ce qui est bon, c'est ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est parfait. Parce qu'à un moment donné, ils disent, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. La pierre, c'est pas de la brique. La brique, c'est une pierre artificielle. Comprenez, c'est du bricolage tout ça. Mais enfin bon, ça va, le temps que ça va, hein, pas de problème. Et il nous est dit que le bitume leur servit de ciment. Le ciment, c'est du ciment, le bitume, c'est autre chose. Donc on voit qu'apparaît déjà dans l'humanité tous les ingrédients, tout ce qui va finalement, produire des cassures partout. Eh oui, une pierre c'est une pierre, du granit c'est du granit. Mais quand on veut faire des contrefaçons, tout est parti en contrefaçon. Tout est deux mondes, deux orientations, deux destinations, et on s'aperçoit que le monde est bâti sur cela. Voilà, il n'est pas construit sur le roc, il est construit sur de l'artificiel, dans l'imagination, dans l'esprit des hommes. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dure qu'un temps. Et tout cela est venu à cause de l'orgueil de l'indépendance. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et là, enfin, on l'entend tous les jours. Hein. Hein, et même du temps de Babel, ça devait aussi. Est-ce que véritablement il y a un Dieu dans le ciel? D'où venons-nous? Et qu'est-ce que nous allons faire? Et où allons-nous? Hein, ça, c'est certain. Donc ça, c'est Babel, l'orgueil de l'indépendance. Et ben, ils veulent leur indépendance, Dieu qui leur donne. Ah oui, Dieu aura une solution au péché des hommes. Cette solution, elle s'appellera Jésus, la croix. Mais là, les hommes, ils sont loin d'être... Alors, vous voulez vous révolter? Vous voulez construire une ville pour être entre vous, bien, là, dans une petite société que vous allez faire à votre idée? Vous voulez faire une tour aussi, qui monte pour défier le ciel, en disant, mais Dieu n'existe pas. C'est comme Gagarine, quand il est redescendu de son Spoutnik, c'est comme ça qu'on appelait les choses. Alors la première question que les journalistes lui ont demandé, est-ce que tu as vu Dieu? Eh bien il a dit, moi j'ai rien vu du tout. Pensez, pauvre gars, il était monté à 400 km au-dessus de... Pensez que Dieu est quand même un peu plus haut. Hein. Non mais c'est la négation, tout ça, c'est le défi, c'est la moquerie, c'est tout ce que l'on peut finalement dire. Alors... Ça, c'est Babel. Et avec beaucoup de l'union fait la force, bâtissons, faisons une ville, avec nos mains, nous allons nous efforcer, nous allons faire une tour, et puis, quand on sera là-haut, ça sera bien, vous verrez. Mais dans une tour comme Babel, il y a ceux qui sont en haut, ce sont les grands, les nantis, les puissants, ceux qui dirigent le monde, mais il faut pas oublier que, même si elle est comme ça, la tour de Babel, hein, ça c'est pour les... Il y en a pas beaucoup qui sont en haut, parce que l'espace est plus réduit. Mais c'est les maîtres du monde, hein, ceux qui sont en haut. Et la tour, elle est comme ça aussi. Hein. Et par contre, ceux qui sont à la base, il y a des caves, il y a un sous-sol, etc. Ce sont les misérables, les pauvres, etc. Alors ceux-là, on les oublie, on les laisse dans le noir. Eux, là-haut, ils ont la lumière. Hein. Enfin, une prétendue lumière artificielle. Donc c'est quand même cette humanité qui est bâtie sur l'inégalité. On cache les uns pour que les autres aient plus de lumière, d'espace, et qu'ils aient toutes les richesses du monde, etc. Deux humanités, deux choix, deux orientations, la confusion de toute façon, et puis deux destinations. Et c'est là où on va avancer un petit peu. Dans le livre d'Ésaïe, on va aller un peu plus loin, livre du prophète Ésaïe. Alors, il nous est dit, et là nous allons voir la différence, ça va apparaître tout de suite. Hein. Livre du prophète Ésaïe, qui nous dit, ces paroles, chapitre 26, et au verset 1er, alors il y a naturellement l'introduction. « En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. » Alors, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, non pas que ce peuple ait choisi Dieu, il faut bien mettre les choses en place, mais c'est Dieu qui a voulu choisir dans le concert des nations, un petit peuple qui s'appelle Juda, Israël. Et ce cantique, c'est ça, c'est tout simplement un refrain. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. La suite, c'est la transition. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, la ville. C'est moi qui l'ajoute. Aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Voilà, nous avons encore un nouveau développement qui... Alors, on a parlé création, on a parlé de Babel, ce que pouvait représenter cette humanité qui tourne le dos à Dieu, qui s'en va là, et qui s'en va dans la confusion. Elle ne sait pas qu'elle est confuse, elle ne sait pas où elle va, mais elle va vers les ténèbres, elle va vers l'orgueil et la misère. L'orgueil pour les uns, la misère pour les autres. Et on est fier de cette tour, on est fier de cette ville. Alors, dans Ésaïe 26, il y a la comparaison entre le monde de la foi, qui apporte la paix à l'humanité, on l'a vu, on va voir, et le monde du jugement arrêté. Oui, parce que c'est arrêté déjà. Déjà dans le livre du prophète Ésaïe, il y a déjà quelque chose qui est arrêté. C'est que le choix, c'est le choix des hommes, mais il y a d'un côté la bénédiction pour ceux qui ont choisi Dieu, et puis il y a malheureusement, c'est pas Dieu qui maudit, mais malheureusement, ils se maudissent eux-mêmes par finalement leur folie, leur orgueil, leur cruauté, leur aberration en pensant qu'ils font le bien, en pensant qu'ils sont dans le bien. Et ils veulent se sauver eux-mêmes. Le monde de la foi et de la paix. Nous avons une ville forte. Oui. Combien de fois nous avons lu dans le livre des psaumes, David le dit souvent, que Dieu est ma haute retraite, ma forteresse, mon asile protecteur. Et là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de rempart, il n'y a rien du tout. C'est pas à l'extérieur, c'est pas visible, c'est à l'intérieur de notre cœur. Nous avons une ville forte. Elle n'est pas sur la terre, cette ville forte. Elle est dans le ciel. Elle est dans une autre dimension, pour ceux qui perçoivent avec les yeux de la foi, pour ceux qui ont résolument choisi, eh bien là, d'adorer, de prier, de servir Dieu. Il nous donne le salut pour muraille et rempart. C'est parce que justement, la connaissance de cet évangile, de ce message, de cet appel de Dieu est parvenue jusqu'à nous, et qu'il nous a rendus capables d'y croire, qu'à ce moment-là, eh bien ça nous sert de rempart. Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? C'est la foi. Ouvrez les portes, est-il dit au verset 2. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Eh oui, parce que c'est pas une ville fermée, barricadée, comme Jéricho, ou comme Babel, parce que je pense qu'il devait y avoir des portes, mais c'est une ville qui est ouverte à tous. C'est une ville où tous ceux qui entendent l'appel de Dieu peuvent rentrer, s'y reposer, y demeurer. C'est ça, justement, ce qui est présenté à travers ce message. Et à une condition, non pas la versatilité, non pas le doute et la foi, ce que je crois plus, etc., etc., mais il est bien dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui se maintient, à celui qui envers et contre tout, a déclaré que c'est Dieu son sauveur et son Seigneur, qui garde ça au fond de son cœur, qui le proclame, qui le déclare à celui qui est ferme dans ses sentiments, alors à ce moment-là, tu assures la paix, oui. C'est une belle parole, ça, hein? Parce que tu te confies en Dieu. Parce que tu te confies dans un Dieu que tu ne vois pas. Et non pas le Dieu de Babel, qui était fait avec des objets, qui était fait avec des réalités matérielles, devant lesquelles on se prosterne avec des faux dieux et qui donnent forcément des faux cultes. La foi, elle perçoit un monde que l'on ne voit pas, mais qui est une réalité dans tout l'univers. Ça, c'est certain. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et quand on a fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, une des premières choses que nous apprécions, après une vie peut-être de tourments, de combats et de déchirements intérieurs, c'est la paix de Dieu. Ouais. La paix que Dieu donne par son Saint-Esprit, par la foi, notre foi en Jésus-Christ. Et pourquoi nous avons la paix? Eh bien, tout simplement, parce que l'homme se confie en toi. Le mot confiance est un mot qui est vulgarisé, hein. Je dis confiance, oui, confiance dans les affaires, confiance dans ceci et cela. Bon, c'est un mot qui est partout, hein, on le voit. Mais on pourrait le traduire par mot foi. Foi, ça nous amène peut-être justement à une autre dimension. Beaucoup d'y parlent et mélangent foi et religion, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Mais foi a une connotation, a une pensée précise, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme qui fait confiance à un Dieu qu'il ne voit pas, et qu'il apprend au fur et à mesure de sa vie à découvrir, à connaître, et plus il est assuré, plus il marche avec assurance, alors plus, finalement, eh bien, sa paix augmente, c'est forcé. Avec une interpellation qui est donnée, parce que la porte de la ville est ouverte, hein, c'est pour ça qu'il est dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Pas un temps, pas quelques temps, mais tout le temps. Toujours. Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ah oui. Alors on parlait de briques, maintenant c'est du rocher, c'est de la pierre. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du préfabriqué, vous savez aujourd'hui. Enfin, je connais pas grand-chose, mais quand on va chez les marchands de matériaux, là, il y en a des qui sont des entreprises énormes. Alors ils vous proposent toutes sortes de matériaux, toutes sortes de choses en disant voilà, on a découvert, ce sont des mélanges chimiques, etc., etc. Mais rien ne remplacera la pierre, hein. Et on fabrique un monde aujourd'hui qu'avec de l'artificiel. En vous disant c'est pratique, c'est léger, enfin bon, c'est tellement léger qu'on va voir tout à l'heure ce que ça va faire. On y reviendra, ça, justement, à la légèreté des matériaux, à la légèreté, finalement, du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est aussi léger que les matériaux qu'il utilise. Hein. Ça va, ça passe, et puis ça disparaît. Hein. Ça va, ça vient. Le rocher des siècles. Et voilà que Dieu nous montre les deux orientations, les choix de l'homme, de cette humanité, et il nous montre d'un autre côté les deux destinations, ça tient le coup, ça s'écroule. On verra. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Vous savez, vous imaginez la tour de Babel, les grands, les rois, les puissants, etc., qui sont en haut à la lumière. Puis les pauvres, ceux qui sont les esclaves, ceux qui sont les sans-existence. On pourrait dire comme ça. Hein. Alors il a renversé ceux qui habitent les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Oh, combien de villes de l'Antiquité, des villes d'empire, des villes qui ont eu un renom extraordinaire, qui ont dominé le monde. Aujourd'hui, vous savez, comment c'est ? Ben, y a plus que des ruines. Si vous allez au Moyen-Orient, si vous faites un voyage organisé, vous allez voir que des pierres. Ouais. C'est pas très gai. Hein. On vous dit, il y a eu ceci et cela, c'est très près de voir l'histoire. Mais bon, après, vous avez tout le décor avec des colonnes qui sont par terre, enfin, des choses comme ça. Hein. Bon, c'est pas... Il a abaissé la ville superbe. Elle qui était tellement glorieuse et orgueilleuse, qui avait conquis d'autres nations, etc., pour en faire un empire, plus rien du tout. Il l'a abaissée jusqu'à terre, c'est-à-dire dans la poussière. De la poussière, elle est revenue à la poussière. Il lui a fait toucher la poussière, voilà. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Babel, le choix, nous l'avons vu, le monde de la foi et de la paix, et puis également le monde du jugement qui est déjà arrêté, puisque les choses sont écrites. On va prendre, si vous voulez bien, maintenant dans Matthieu. Alors quand je vous dis que ça tient ou ça tient pas, on va voir comment ça se passe. Matthieu, c'est dans le sermon sur la montagne, et là on va comprendre tout de suite le suivi de la pensée. J'espère, mais oui, pas de problème. Chapitre 7, versets 24 à 26. Alors il ne s'agit pas d'une ville, mais ça pourrait être une ville. Il s'agit d'une maison, mais dans les villes, il y a des maisons, parce qu'on ne les appellerait pas villes. Naturellement. Jésus nous dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles ou ces paroles que je dis et les met en pratique, alors là, ça va devenir un petit peu plus engageant. Celui qui garde mes paroles et qui les pratique sera semblable à un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. Ça change. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. On a la même phrase que précédemment. Et là, finalement, c'est le contraire qui se produit, logique. Hein. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Ah, c'est intéressant de prendre en considération, on avait parlé tout à l'heure le choix de la confusion qui mène, eh bien là, à la rupture, la séparation, etc., Babel. On a parlé dans Ésaïe, eh bien du monde de la foi et du monde, finalement, d'un monde qui va s'écrouler parce que le jugement de Dieu est déjà arrêté sur cette folie. Et là, nous avons donc un monde qui tient, et qui résiste dans la première proposition, et un monde qui s'écroule dans la seconde. On suit toujours un petit peu la même trajectoire. Alors, parlons du premier, un homme qui réfléchit, qui se dit, moi, une maison, c'est quand même pour la vie, non ? Ah oui, c'est là où on vit, c'est là où on s'abrite, hein, c'est là où on va pouvoir réunir la famille, c'est là où on va pouvoir vivre peut-être jusqu'à la fin de nos jours, c'est quelque chose de sérieux, hein. C'est pas une cabane, une maison. C'est pas une baraque, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de solide. Autrement, ben, faut faire du camping à vie, hein. Et là, on est nomade, hein. Bon. Mais c'est quelque chose qui a une raison d'être. Une maison. Et elle va être à l'épreuve des vicissitudes du temps, du climat, des saisons, enfin, toutes sortes de choses. Et voilà qu'à un moment donné, il y a une précipitation. Dans les deux cas, il y a le test et l'épreuve. Hein? Donc la pluie, les torrents et les vents. Ça fait beaucoup ça. Hein? C'est quand les trois sont conjugués ensemble, ça vous fait ça fait un raz-de-marée. Enfin bon, des choses qui sont terribles. Il y a beaucoup de gens qui en sont victimes hein, de par le monde. Hein? Nous, on ne connaît pas trop grand-chose par ici, mais quand on voit en Amérique Nord, Sud, hein, les séismes qui arrivent, on se dit, mais fou là là, on peut pas s'imaginer, hein. On peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Mais il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas des maisons. Sous les latitudes où il y a des climats tropicaux, des choses comme ça, les maisons sont peut-être pas forcément toujours en pierre. Nous, chez nous, dans le nord, dans le monde du nord, dans l'hémisphère nord, on pourrait dire que c'est un petit peu plus constitué, mais hein, on voit toujours, même aux États-Unis, hein, dans le sud, ce sont des toits qui s'envolent, c'est des maisons en bois, enfin c'est peut-être très joli, hein, ça fait chalet, mais c'est pas très 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 solide. Alors donc tout ça c'est le test finalement, ça passe ou ça passe pas, ça casse ou ça résiste, d'une manière ou d'une autre. Et il nous est simplement dit, et Jésus dit, mais si vous entendez ma parole, les gens de Babel n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu. Dans bien des histoires de la Bible et du peuple d'Israël, ils n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu. Et ils n'ont eu que le résultat, parce que c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Enfin, c'est elle qui crée la foi pour pouvoir ensuite mettre notre espérance dans un sauveur. C'est vrai, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais bon, il nous est dit que elle n'est point tombée, elle a résisté. Babel a été anéantie. Les villes dont il est parlé dans Ésaïe, anéanties aussi, c'est dit, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Elle n'est point tombée, et vous savez pourquoi? Parce que les choses sont tellement simples avec Jésus quand il les explique. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. C'était pas du préfabriqué. Le roc, c'est difficile, c'est dur, c'est solide, ça ne varie pas, ça ne change pas. Ça m'est arrivé quelquefois de me poser la question, et vous aussi, de me promener un peu là, sur les, voir les rochers, il y en a, c'est très intéressant, là, sur les chemins douaniers et tout ça. Je me suis dit, de quel âge ils ont ces rochers? Est-ce que vous avez une petite idée? Faudrait faire une petite enquête, là, enfin faire une analyse au carbone 14, on pourrait peut-être savoir. Mais je pense qu'ils sont plus vieux que moi. Enfin, je me doute. Et je me dis, mais il y a peut-être des hommes, il y a 100 ans, 1000 ans, qui ont vu la même chose. Je ne sais pas où était la hauteur de l'eau, hein, parce que ça, c'est ça. Mais, ou même peut-être en dehors du bord de mer, hein. Vous avez quelquefois à l'intérieur des terres, des gros rochers, des choses comme ça, je me dis, mais c'est extraordinaire. Moi, je m'intéresse un petit peu à la géologie. Hein. Quand je serai à la retraite, avec mon petit chapeau, vous savez, un petit peu le bob, là, comme ça, j'irai faire des petites enquêtes. Parce que c'est très intéressant de savoir que vous ne les comptez pas en années, vous ne les comptez pas en millénaires, vous les comptez en centaines de millions d'années, vous rendez compte? Il y a de quoi avoir une sacrée barbe blanche. Hein. Oh ben ça, c'est sûr. Hein. Et je me dis, il y a des hommes qui ont vécu là, il y a des hommes peut-être qui se sont promenés ici avant moi, voilà. Hein. Des hommes qui, ceux qui ressemblaient pas aux singes en tous les cas. Parce que on n'est pas des singes, hein, je voudrais quand même vous le dire, même s'il y en a qui le croient, mais bon, c'est vrai. Je me dis, mais tout ça, c'est un autre monde, mais c'est solide, hein, le roc. Hein. Ça tient le coup. Ah ouais, et puis il peut y avoir toutes sortes de cataclysmes, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça ne bougera pas, et notre Dieu est un roc. Ah oui, il est solide le Seigneur. Hein. Et quelquefois, quand on lui résiste, on risque de se faire des bosses. Hein. Parce que lui, il ne bouge pas. Hein. Et pourtant, il n'est pas là pour que nous fassions du mal, il est là pour que nous fassions du bien. Mais on essaie, nous, de forcer un petit peu les choses, alors on se fait du mal. Et n'allons pas l'accuser. Alors, il était fondé sur le roc. Et puis, il y a le contraire, naturellement, habitants de Babel, Israël rebelle, et puis encore notre temps, notre génération, eh bien voilà, quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire que, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est la vérité? Puis, faut arrêter avec ces histoires de Bible. Hein. D'accord? Mais c'est pas mon raisonnement, c'est le raisonnement des autres. Hein. C'est une façon de parler. Hein. Eh bien, il est semblable à un homme qui est fou. Il y a le sage, il y a le prudent, et il y a l'insensé et le fou. Celui qui ne réfléchit pas, celui qui ne réfléchit pas à long terme, celui qui ne mesure pas finalement, eh bien, la fragilité de son existence et le peu d'existence que nous avons, le souffle fragile, hein, comme on l'a chanté tout à l'heure, et qui se dit, de toute façon, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. Ah, il me reste encore 50 ans à vivre. Ça fait beaucoup, mais 50 ans, c'est rien. Si vous n'avez pas de rhumatisme, vous pouvez peut-être y aller, sans trop de douleur. Mais ça va nous arriver en cours de route. Hein. Enfin, je voudrais vous rassurer, mais... Alors, l'homme insensé, il ne réfléchit pas qu'il est venu, qu'il procède du ciel et qu'il est destiné à aller au ciel. Voilà. Ne lui parlez pas de l'enfer parce que ça le terrorise. Hein. Et il dit ça n'existe pas. Mais il faut mieux de savoir, il faut mieux de réfléchir un peu parce que l'enfer, il existe. Hein. Et l'enfer, il est déjà dans son cœur. Si véritablement, il développe les choses, dans le mauvais sens. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Vous y allez avec une petite pelle, un petit seau, vous faites un trou et puis vous dites, voilà ma maison. Ben, vous allez voir un peu comment ça fait. On voit des enfants et qui viennent s'amuser. Ils font des beaux châteaux de sable, hein, vous avez remarqué? C'est beau quelquefois, c'est... Hein, moi, quand j'ai mes petits-enfants qui viennent de temps en temps, on les emmène là-bas, et puis ils font des châteaux. Il y en a des beaux, hein? Il y a des... Et puis les papas font ça aussi, hein? Et les grands-papas, ils peuvent plus se baisser. Alors donc, s'ils se baissent, ils peuvent plus se relever. Donc, c'est le problème. Mais toujours est-il qu'ils font des beaux châteaux. Et vous savez la durée d'un château de sable? Ça va pas? La marée qui monte. Hein? Mais les enfants sont habitués. Parce qu'ils savent que ça va être détruit. Et ils attendent la marée pour que ça soit détruit. C'est curieux. Et ils jouent à ce moment-là. Ils disent, oh, ça y est, encore une vague. Et puis mon château, il est parti. Ouais, mais si on fait ça avec la vie, on ne peut pas frapper des mains, hein? Que ça, y a, les gens jouent avec leur vie, hein, dans les sports violents, dans la mauvaise hygiène de notre existence, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Eh oui, mais alors après, c'est moins drôle, hein, quand ça s'écroule à la première vague, hein, puis avec les vagues qui reviennent et reviennent. Alors, elle bâtit sa maison sur le sable. Alors, la même chose, la pluie, les torrents, les vents. Et il nous a donné un mot. Alors, elle n'est pas tombée dans le cas du sage, mais là il nous est dit, elle est tombée, et verdict, sa ruine a été grande. Le mot ruine, perdition, le mot disparition, on ne voit plus rien du tout. Le souvenir même est parti, même lorsque nous serons partis de cette terre, si nous ne laissons pas de souvenir sur cette terre, toujours est-il que nous aurons une mémoire impérissable de l'autre côté. Et moi, je crois que notre vie au service du Seigneur, eh bien, restera inscrite dans le grand livre du ciel. Ouais. Chacun d'entre nous, parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu, et votre vie ici-bas, votre cheminement ici-bas, votre amour pour le Seigneur, là, ce que vous avez fait consécutivement à votre foi qui a produit des fruits, ça sera marqué comme les histoires de Gédéon, les histoires de David, etc., etc. Vous rendez compte le grand livre qu'il va y avoir de l'autre côté? Ça sera l'histoire de l'un, l'histoire de l'autre, etc., etc. La Bible, c'est un tout petit livre à côté de l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes qui ont cru en Dieu, qui font confiance à Dieu. Vous avez pensé à ça? Vous croyez que le témoignage, notre témoignage de vie, il aura disparu de l'autre côté? Non. Nous sommes environnés, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ces témoins restent en vie pour l'éternité. Hein? Ah oui. Parce que le Seigneur aura oublié nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Il n'aura gardé que ce que lui aura construit dans notre vie. Et ça restera. Et je suis sûr que les anges voudront plonger leur regard dans ce grand livre du salut de l'humanité, de la rédemption de l'humanité. On se délecte des grands hommes de foi, des grands et des petits, hein. On se dit, c'est des hommes qui ont aimé Dieu, c'est des exemples, des modèles pour nous. Mais de l'autre côté, quand tout sera arrêté, quand tout sera fini pour nous sur cette terre et l'Église universelle, celle qui est encore là, mais celle qui est déjà là-haut. Parce que quand nous allons partir, nous allons rejoindre l'Église universelle, ceux d'avant, dans le temps et dans l'espace, mais c'est une destination qui est glorieuse, hein? Ouais, qui est glorieuse. La ruine a été grande. Cette ruine, tout ça, ça va disparaître. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une autopsie maintenant? Vous savez ce que c'est que l'autopsie? Alors, on va la faire. On va voir la différence. Oui, on va faire une autopsie. L'autopsie, c'est l'examen, finalement, et bien d'un cadavre. C'est pas beau, hein? Mais on va voir. Ça vous... Non? Ça... J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar, hein? Moi, j'ai remarqué que maintenant, à la télévision, c'est horrible. Il n'y a que des films policiers, des choses comme ça, où on ne voit que des autopsies des cadavres. Je me dis, mais quelle humanité! De quoi elle se nourrit, et nos enfants aussi? C'est répugnant. Et quand on voit notre monde, nos jeunes en particulier, qui se baladent qu'avec des têtes de mort, enfin pas souvent, mais sur leur... Voilà, je me dis, mais tout est imprégné de mort. Mais nous, c'est la vie, c'est pas la mort. Moi, c'est des choses qui me révulsent. Et quelque chose qui ne va pas. On peut pas avoir l'esprit de Dieu et puis avoir cet appétit, ou cette recherche, ou cette curiosité, même de porter, ouais, il y a des gens qui ont des tatouages de tête de mort, etc., etc. Et en plus des femmes. Enfin, c'est vrai, moi je pense que, enfin, je dis des hommes et des femmes, c'est vrai, mais quand même, je me dis, c'est affreux le monde. Quelle imprégnation il peut y avoir pour que les gens disent et viennent, parce que comme vous l'avez le tatouage, vous le gardez, hein. À moins de vous faire dépouiller complètement, mais enfin bon, c'est pas une solution. Mais toujours est-il que vous l'avez jusqu'au bout, hein. C'est une marque. Alors je veux bien croire qu'il peut y avoir des chrétiens qui ont fait ça avant. Ne leur faites pas de reproches, ils sont convertis aujourd'hui, d'accord? S'ils avaient été chrétiens avant, ils l'auraient pas fait. Ça, c'est sûr. Alors, autopsie. Apocalypse, chapitre 18. Vous devinez un peu ce que c'est? Et là, on va retrouver le premier nom, la première histoire qu'on a vue dans Genèse chapitre 11, avec le même nom, un nom qui s'est prolongé, un nom qu'on a ajouté encore autre chose, vous allez voir. Apocalypse chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire, la lumière vient et éclaire. La lumière de Dieu éclaire tout, même tout ce qui est caché. Cet ange cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, tiens, on en parlait hein, tout à l'heure, hein. elle est tombée, Babel, Babylone, la grande, hein, elle avait poussé depuis. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Je continue. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait aux hommes, aux croyants, aux adorateurs de Dieu, à ceux qui servent Dieu, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Jugement, hein, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur qui l'a jugée. » Ah ! Orientation, destination, nous sommes en face d'un cadavre. C'est le cadavre de l'humanité, figurez-vous. L'humanité perdue, l'humanité révoltée, l'humanité comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'il y a... Qu'est-ce qui tient encore quand on entend les insanités, quand on entend les injures, quand on entend la diffamation, quand on entend ce que nous entendons, ça c'est déjà fait, hein, faut pas se faire d'illusions, hein, c'est pas nouveau hein, ce qui arrive. Mais ça nous choque, nous. Hein. Mais il y a de quoi être choqué. Parce que le malade est atteint de la tête aux pieds. Ou des pieds à la tête. Ouais. Quand on voit l'état de notre monde, l'état de notre société, qui est une société occidentale, qui est en tête de Babel, vous savez, elle est à la tête. Après, il y a les petits peuples, les peuples qui disparaissent là, dans les tréfonds de la tour de Babel, dans les caves, dans les souterrains, etc. Ceux-là, ils n'apparaissent pas, et puis c'est pas intéressant. Et les grands, ouais. On dirait que les grands ont perdu la tête en ce moment, non? Vous trouvez pas? Ha! Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. On croirait qu'ils ont perdu la tête. C'est curieux. Et voilà de quoi est composé. On a ouvert le cadavre. Et on a vu ce qu'il y avait dedans. Premièrement, elle est tombée, elle est morte. Ça y est, c'est fini. Après des siècles et des siècles, près des centaines d'années, eh bien, on a ouvert, on a trouvé qu'il y avait des démons dedans. Que les hommes n'étaient pas tournés vers Dieu, mais ils étaient tournés vers ces réalités spirituelles diaboliques. Des esprits impurs, l'impureté, dans la pensée, dans le cœur, dans les actes, dans toutes sortes de choses. Un repère de l'esprit, où tout oiseau impur est odieux. Vous savez, parce que toutes les nations ont convergé, ils se sont précipités pour boire le vin de la fureur. Ils sont ivres de toute cette mode, ivres de toutes ces idées, ivres de toutes ces philosophies, ou de toutes ces choses. Ils sont dans l'ivresse, c'est-à-dire que quelqu'un qui est ivre, il n'est plus lui-même. Il ne sait plus ce qu'il fait, il n'a plus sa raison, il fait n'importe quoi. Et en raison de la débauche, de la dissolution, bien, mal, mal, bien, homme, homme, femme, femme, et tout ce que vous voudrez, ha ! Dénaturé. Fureur de sa débauche, et les rois de la terre, ceux qui étaient élevés, ceux qui sont les marionnettistes, ceux qui, eux, qui font danser le monde, qui donnent, qui lancent des idées, etc., eh bien, les rois de la terre se sont livrés avec elle, à la débauche. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. On n'a jamais entendu dire que les riches n'ont jamais été aussi riches et que les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. C'est pas vrai, ça ? Ouais. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous le répéterez pas parce que j'aurai des ennuis. Mais vous savez que je suis très riche. Alors, si je dis ça à un riche, il va me dire, mais mon pauvre gars. Et je suis très riche. Vous le croyez ? Je vous remercie, hein, ça me fait plaisir. On est riche parce qu'on a le plus grand trésor au monde qui soit. On a Jésus dans notre cœur. Et je voudrais vous dire, et vous pouvez le dire avec moi, on n'a jamais manqué de rien. Ah ouais. Merci de me soutenir. Tous les jours ne sont pas faciles quand on est riche. Alors, une autre voix vient du ciel. Et là, c'est une injonction pour ceux qui sont un peu retardataires, ceux qui hésitent, ceux qui sont assis entre deux chaises en disant « j'y vais pas, je vais à droite ou je vais à gauche ». C'est un petit peu Dieu, mais un petit peu le monde, et puis derrière le monde, c'est pas ce qu'il y a. Hein. Mais c'est peut-être intéressant quand même, parce qu'on fait ce que l'on veut avec l'autre. Et lui fait ce qu'il veut avec nous. C'est ça ce qu'on ne sait pas. Hein. Alors, sortez mon peuple, ne participez point à ses péchés. Mais quelquefois c'est dur, hein, parce qu'il y a un vieil homme qui est là en disant « Oh, tu peux bien te permettre. » Alors, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Imaginez-vous les péchés qui s'accumulent jusqu'au ciel quand on voit l'immensité du firmament. C'est pour vous dire qu'à travers les siècles, les civilisations, les nations, etc., c'est monté. Hein. Ouais. Alors payez-la comme elle a payé. Donnez-lui au double de ce qu'elle a fait, parce qu'il y a beaucoup de cruauté, il y a beaucoup de sang, hein, il y a beaucoup de choses qui sont... Dans la coupe qu'elle a versée, versez-lui au double. Et autant cette société, cette humanité créée quand même, à l'origine, pour l'amour, pour le partage, la générosité, le respect de l'autre, le vivre ensemble, etc., etc., vous vous rendez compte, elle est devenue, mais défigurée, sale, inimaginable, méconnaissable. Alors autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe en disant « Regardez comme je suis belle ». Eh oui, regardez le luxe de mes magasins. Regardez le luxe et mon prestige avec les perles et les diamants, l'or, nos grands temples que l'on appelle les banques, etc., etc. Regardez cette fortune, regardez tout ça, mais elle s'est glorifiée, elle s'est plongée dans le luxe. Alors, c'est pour qu'une partie, hein, les autres, ils n'y ont pas droit. Hein. À moins d'aller le chercher en braquant une banque, mais bon, c'est pas conseillé non plus. Hein. Autant donner lui le tourment et le deuil. Elles se disent qu'elle finalement, elle est pleine de vie et puis ça va bien. Parce qu'elle a dit dans son cœur, et qu'il y a des choses que l'on dit dans son cœur, mais les autres n'entendent pas, mais le Seigneur le sait. Hein. Je suis assis en reine, la société de notre temps aujourd'hui. Elle est assise en reine. Ah, tout va pas bien, hein, ça c'est sûr. Mais finalement, elle surfe toujours hein, au-dessus. Voilà, les problèmes sociaux et tout ça, bon, voilà, même s'il y a un discours qui est apporté pour apaiser les colères, etc., etc., ça n'empêche pas finalement, c'est pas le même monde que nous, hein. Pas le même monde, je suis pas de social. Hein. Je suis assis en reine, je ne suis pas veuve, et pour cause, elle peut pas être veuve, le mari n'est pas mort, et elle était voir que des prostituées. Excusez-moi, hein, c'est un peu rapide hein, ce que je suis en train de dire. Bah, naturellement, parce qu'il y a une alliance, la véritable alliance avec Jésus-Christ. Et autrement, ce sont que des mésalliances. Oui, elle n'est pas veuve, puisque de toute façon elle n'a jamais été mariée, puisqu'elle n'a jamais voulu prendre d'engagement d'une manière ou d'une autre. Je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un jour, ces fléaux arriveront. Un seul coup, hein. Ça risque de nous tomber sur la tête. Quand même, faites attention. Regardez quand même un peu ce qui se passe autour de vous. Hein. Si jamais. Hein. Peut-être pour ce soir. Je sais pas. N'ayez pas peur. Hein. La mort, le deuil, la famine. Et elle sera consumée par le feu. Et, il est dit, il est puissant le Seigneur qui l'a jugé. Ah oui, les hommes qui défient la terre et le ciel, mais attendez, c'est pas le Seigneur est plus fort que tout. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, ça, c'était l'autopsie. Je voudrais simplement terminer avec une réflexion. L'image que nous avons utilisée, la ville, la maison, ça évoque les sociétés humaines. On le voit, hein. Ça évoque aussi, dans le bon sens et dans le sens spirituel, la construction de notre vie spirituelle aussi. Hein. Il nous dit que c'est Christ qui bâtit la maison. Hein. Il édifie, nous sommes un édifice, l'Église est un édifice. Hein. Et c'est le contraire de celui dont nous avons parlé. Donc, ça évoque les sociétés humaines d'hier et d'aujourd'hui, les peuples, les nations, avec leur économie, leur politique, leurs valeurs culturelles ou leurs découvertes, enfin la science, etc. Hein. Les races aussi, la pensée, les idéologies, les philosophies, tout ça, les régimes également. Ça, c'est les villes dont nous avons parlé et dont l'aboutissement, c'est le chapitre 18 de l'Apocalypse. C'est pour nous montrer qu'il y a un choix dans la vie. Bon, nous sommes tous entre nous cet après-midi, ce choix nous l'avons fait et nous sommes heureux de l'avoir fait. C'est pas grâce à nous, hein. C'est comme le Seigneur qui est venu nous dire, hein, écoute, viens, tu seras mieux avec moi, tu seras bien, parce que je vais te donner un avenir et de l'espérance. Vous connaissez le texte de Jérémie, hein, chapitre 11, verset, je me souviens plus, mais c'est ça, je t'appelle pour te donner un avenir et de l'espérance, pour qu'on ne soit pas perdu. Et nous avons réalisé que nous sommes sauvés aujourd'hui, hein, par la grâce de Dieu, hein. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'édifice du Saint-Esprit. Eh oui, nous sommes, par la grâce de Dieu, puisque Christ a été fait pour nous sagesse, nous sommes le sage selon la rédemption de Jésus-Christ qui a construit la maison sur le roc. Jésus se présente comme le rocher des siècles, bien sûr. Hein. Alors en conclusion, nous pourrions dire une chose, et je reprendrai simplement les paroles de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, c'est le roc. La parole de Dieu, elle est solide. Quoi qu'on fasse, quoi que les hommes entreprennent pour la détruire, pour la brûler, pour la trafiquer, pour la dénaturer, pour la souiller, la parole de Dieu demeure éternellement. D'ailleurs, c'est écrit justement dans ce que Jean nous dit. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde, parce que la différence, elle est faite. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors le ciel et la terre passeront, avec les hommes, les sociétés, les Babel, tout ce que vous voudrez, les maisons sur le sable, Babel et Babylone, tout ça, ça passera, ça sera complètement enlevé. Et la parole de Dieu que nous avons ouverte aujourd'hui, qui nous rappelle que nous sommes dans un monde qui est en train de muter vers sa fin, qui va vers sa fin, parce que Jésus revient bientôt, eh bien cette parole ne passera pas. Alors, gardons les yeux tournés vers le Seigneur, parce qu'il revient bientôt, et notre plus grand trésor, c'est de garder cette foi, et il nous est dit que celui qui fait confiance à Dieu, eh bien, tu lui assures la paix, la paix. N'ayons pas peur, n'ayons pas de crainte, tout est déjà prévu, et que ce soit ici ou que ce soit de l'autre côté, nous sommes heureux d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. On prie quelques instants, si vous voulez. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que nous croyons qu'il y a multiples façons, Seigneur, de recevoir ta parole parce que c'est véritablement quelque chose d'infini que la parole de Dieu. Ta parole de Dieu demeure éternellement. Les paroles de Jésus, eh bien, en effet, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Avec cette humanité, Seigneur, il y a une humanité dont la destination sera plus que le paradis terrestre, le paradis céleste, le royaume des cieux. Et puis, il y a une autre humanité qui est celle, Seigneur, de ce que ces hommes sur cette terre ont choisi, ont aimé. Aimer l'injustice, aimer le mensonge, aimer la mort, eh bien, il ne pourra pas y avoir double nature de l'autre côté. C'est pas possible. Ce qu'ils auront été sur la terre, eh bien, ils le seront aussi dans un autre monde, qui sera un monde terrible. Et ça sera définitif. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. La Babel s'écroule. Elle va disparaître. elle a déjà disparu. Eh bien, nous voulons te demander, Seigneur, que, et ça c'est la prière de ceux qui sont sauvés, Seigneur, moi je crois qu'il y a encore des hommes et femmes, des personnes âgées, des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants, qui quelque part ne connaissent pas encore le chemin, puisque tu nous dis que les portes sont ouvertes. Nous l'avons vu il y a un instant dans Ésaïe. Eh bien, en effet, permets, Père éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute religion, qui entendent l'appel de Jésus-Christ, et qui puissent réaliser ce que nous avons réalisé, ce que tu nous as rappelé, sortez du milieu d'elles. Eh bien, nous voulons, Seigneur, te demander, Père éternel, qu'il y ait un souffle de l'Esprit, qu'il y ait comme un réveil, Seigneur, dans nos pays qui se tiennent comme des rois et des reines, en effet, parce qu'ils sont à la tête des nations, et qu'il y ait également, Père éternel, en effet, eh bien là, Seigneur, un souffle de l'Esprit qui amène ces hommes par milliers, par millions, Seigneur, aux pieds de Jésus. Moi, je me réjouis de ce que, en dehors peut-être d'une connaissance approfondie de la Bible ou de l'Évangile, tu nous dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, ça, c'est ce qui me réjouit. Nous avons eu le temps. Nous avons eu le temps de répondre, nous avons eu le temps de vivre, nous avons eu le temps de connaître ta parole, et nous la continuons à la connaître et nous voulons l'annoncer aux autres. Ça, c'est la mission de l'Église. Mais Seigneur, je te rends grâce pour tous ces hommes qui sont là, en effet, dans les sous-sols de Babel, qui sont tenus par des oppresseurs, qui sont tenus, Seigneur, dans des prisons, dans des geôles noires, obscures, tenus dans des religions occultes, et qui quelque part, Père éternel, eh bien, en effet, aspire à voir la lumière de Dieu, du Dieu vrai, du Dieu réel, du Dieu qui sauve. Seigneur, nous voulons croire que Père éternel, même celui qui est au fond de sa prison, quelle qu'elle soit, matérielle ou spirituelle, tu es capable d'envoyer un rayon de lumière. Et qu'à cela, il entende le mot de Jésus. Jésus, Sauveur. Seigneur, c'est notre prière. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, moi je me réjouis de voir les hommes et les femmes qui aujourd'hui n'ont pas chez nous, malheureusement, mais sur les routes, eh bien, Père éternel, des hommes qui se tournent vers Jésus, soit par eux, un moyen que tu as choisi ou un autre, et nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, le temps de l'évangélisation est encore ouvert. Il est ouvert chez nous, mais il est ouvert de par le monde, Père éternel, là où il y a beaucoup, beaucoup de peine, de pleurs, de douleurs, de souffrances. Et Seigneur, tu entends les cris de tous ces malheureux. Et nous t'en bénissons. Ce soir, nous voulons te demander que tu sauves les malheureux, que tu sauves le malheureux, que tu entends son cri et que véritablement, Père éternel, ils appartiennent à Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.